Popienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfance? Tiens, voilà une question à laquelle nous pourrions essayer de répondre aujourd'hui puisque notre invitée, Hélène Husdin, auteure de cette incroyable bande dessinée René.e, y parle beaucoup d'enfance, de rêves, de lapins, de sorcières, d'ogres, de géants, de métamorphoses, dans un somptueux feu d'artifice graphique qui a peu de chances de vous laisser indifférent. Oui, qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfance? Qu'en avons-nous tous fait, tous autant que nous sommes? Qu'avons-nous perdu en route en devenant raisonnable, ou plutôt en nous pliant à la raison qui, paraît-il, gouverne le monde? Nous voulions être explorateurs, astronautes, pêcheurs de perles, chefs d'orchestre, dompteurs de dragons, magiciens, derviches tourneurs, et nous voici sagement rangés dans des boîtes ou plus ou moins satisfaits de gagner notre vie sans avoir à faire, par exemple, de la sélection de poussins. Et oui, voilà le genre de réflexion dans lesquelles la lecture de cet enivrant livre d'images m'a plongé, et comment dire, dans ce monde où nous vivons tous pressurisés entre mille préoccupations d'ordre économique, politique, environnemental ou plus prosaïquement familial, ce livre-là, je vous le dis tout de suite, va vous faire rêver. Hélène Husdin est l'invitée de Pop 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 et Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine de Gaulle.
Bonjour Hélène Husdin.
Bonjour Antoine.
Bonjour. Alors, je parle d'un livre qui fait rêver. Et vous, on va commencer par ça. Hélène, de quoi rêvez-vous le plus fréquemment, puisque je sais que vous notez tous vos rêves?
Oula, mes rêves, ils sont pas forcément très...
racontables à l'antenne.
Racontables.
À des heures ouvrables.
Exactement. Et puis, ils sont un peu effrayants aussi.
Ouais.
Je pense que je fais plus de cauchemars que de rêves. Mais après, il m'arrive de...
Il y a des figures récurrentes quand même.
Il y a des figures récurrentes, des endroits récurrents. Il y a souvent la plage, la nuit, avec du sable noir, des vagues effrayantes. Des monstres, des mangeurs de lumière, comme on retrouve dans René. Après, je rêve parfois de que je vole, que je sais que je rêve et que je sais que je vole et que j'essaie de poursuivre ça jusqu'à, par exemple, une fois comme ça, rentrer dans l'océan, savoir que je peux respirer sous l'eau parce que je sais que je suis en train de rêver. Et puis au bout d'un moment, on me dire « Bon, et maintenant, alors qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» Et puis finalement, réveiller.
Et voilà. Puis ça devient, par exemple, René, pour ne parler que de la surface immergée de votre travail.
Oui, René, tous les personnages sont vraiment des personnages que j'ai inventés à travers mes rêves, quoi, en fait.
Voilà, c'est ce que je voulais entendre, et on va y revenir en détail dans quelques instants. Est-ce que le retour à la réalité, le réveil, se fait toujours en douceur?
Non, c'est difficile, c'est vrai.
Est-ce que vous parlez du rêve vraiment comme d'une vie parallèle?
Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment cette sensation, et je pense que le dessin en fait m'aide à prolonger en fait mes rêves de la nuit, parce que vraiment je suis dans un état second quand je dessine, et je revois à nouveau tous les rêves, toutes les histoires que j'ai pu me faire dans la nuit, quoi. C'est vraiment
Hélène Husdin, votre chemin est tout à fait inhabituel, hein, puisque vous venez à la BD sur le tard, après avoir été photographe, une photographe dont le travail a fait l'objet d'une monographie aux éditions Contre-jour en 2013, illustratrice de presse, de livres jeunesse et peintre pour le cinéma, notamment pour le film de Carax, Paula X, ou le portrait de jeune fille en feu de Céline Sciamma. C'est quoi peintre de cinéma?
Alors, peintre de cinéma, pour le film de le portrait de jeune fille en feu, en fait, j'avais vraiment pas... un gros rôle à jouer. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait une peintre attitrée, Hélène, non, je me souviens plus le nom, mais qui, elle, a peint vraiment toutes les toiles. Moi, j'étais là plutôt pour la soulager sur certaines toiles, parce qu'il y en avait énormément à peindre. Donc, j'avais des copies de tableaux à faire plus, où on voyait la comédienne, elle devait être représentée dans sa robe de marquise, etc. Et donc, c'est plus des... Ça, c'était vraiment un travail de copie de tableaux. Et puis après, pour avec Léo Scarac sur Paula X, il y a eu ça. J'ai eu aussi des... grande toile, je me souviens avoir fait une énorme toile de Moby Dick qu'on avait installée dans le château où on a tourné après en Normandie. Mais sinon aussi, je faisais un peu l'interaction entre le chef décorateur Laura Inler, qui est mort depuis, et Léo Scarax pour présenter les dessins, pour voilà, des choses comme ça en fait.
Ça me plaît beaucoup l'intitulé peintre de cinéma.
Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait. C'est vrai que c'est... En fait, quand je suis arrivée quand même, j'ai commencé en tant que stagiaire, j'étais pas payée, je faisais plus des patines sur les murs, c'est-à-dire vieillir des murs, Ouais, c'est ça, c'est plus des trucs comme ça. Et puis petit à petit, en fait, je sais pas comment le chef déco a vu que je savais dessiner, m'a un peu pris sous son aile, et puis voilà quoi.
Bon, on va revenir sur tout ça dans quelques instants, mais là, j'ai l'impression d'avoir affaire avec vous à une artiste multiple, et cette tendance à changer de médium et de registre m'inspire. Je vous propose d'écouter ensemble un morceau qui s'appelle fort à propos Change the Show du réjouissant Miles Kane. C'était Miles Kane, Change the Show, que nous écoutions donc en compagnie d'Hélène Husdin, auteure de BD, peintre, photographe et mille autres choses encore. Hélène, commençons par un aspect pas forcément évident de votre curriculum. Je sais que vous tricotez et que vous tricotez des choses tout à fait inhabituelles, des masques notamment, enfin des sortes de cagoules. De quoi s'agit-il exactement ? C'est venu avec le confinement, ça ?
Oui, alors précisément cette série de masques cagoules, c'est vrai, on peut les appeler comme ça, c'est venu avec le confinement. C'était un peu une blague pour répondre à la pénurie des masques qu'on a tous connus donc en mars-avril 2020. Ouais. Mais l'autre pan de cette histoire, c'est que moi j'étais un peu seule à Bruxelles parce que j'ai déménagé à Bruxelles fin 2019, donc malheureusement un peu avant le confinement. Et j'étais un peu loin de mes amis et parfois c'était un peu dur de ma famille aussi. Et donc j'avais demandé à mes amis de m'envoyer un autoportrait d'eux-mêmes, même ceux qui savaient pas dessiner en fait. Et à partir de ces dessins, et d'autant plus quand ils savaient pas dessiner, ça me permettait de partir. En fait, l'idée c'est que je fais des masques en essayant de les représenter, et ensuite je pose moi-même avec ces masques. C'est un moyen de rester un moment avec eux.
Alors, vos amis ont des têtes étranges, hein, je me permets de vous le dire tout de suite quand même.
Ouais,
certains d'entre eux me font penser à la peinture de Jean-Michel Basquiat, par exemple.
Ah ouais, bien vu.
Ouais,
j'avais pas pensé à ça, mais c'est bien, ouais. Effectivement, il y a
côté un peu enfantin.
Ouais,
un peu.
Celui de Henri, donc qui m'a fait son dessin, son autoportrait, qui est un enfant de 10 ans qui dessine particulièrement bien, pourrait faire penser à ça. Ouais, c'est vrai, Basquiat. Après, ça rapproche aussi beaucoup de l'art brut, qui est finalement l'idée, c'est que je tricotais très vite. Il fallait que ce soit fait en maximum une matinée, avec un brin de laine très épais, comme ça, je vais très 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 vite. Dans la journée, dans la foulée, je faisais la prise de vue studio chez moi avec mes appareils photo et je postais ça pour partager avec mes amis. Voilà, alors, c'était plus une blague quand même.
Mais... Rassurez-vous, amis auditeurs, nous ne sommes pas fait, nous faisons pas une émission sur le point de croix avec Hélène Usdin qui est venue nous parler aujourd'hui de René au bois dormant, sa première bande dessinée qui est sortie au mois de septembre aux éditions Sarbacane et qui est une véritable splendeur. Mais Hélène, du tricot à la mode, il n'y a qu'un fil et la mode, ou plus exactement la photo de mode, ça a été aussi une autre façon de vous exprimer. Vous avez notamment été forcément, puisque vous réussissez tout, lauréate du prix Picto de la photographie de mode en 2006. Ça commence à m'énerver, hein, toutes ces... tout ça. Et donc je vous le demande, y a-t-il des choses que vous faites mal? Est-ce que vous savez chanter par exemple?
Ah non, c'est horrible, je sais très mal chanter.
Ah, ça me rassure
tellement. Je parle horriblement mal anglais. Ouais. Personne ne me comprend, d'ailleurs c'est un vrai problème quand je voyage. Je ne sais pas trop cuisiner.
C'est-à-dire personne ne vous comprend?
Bah non, en fait, c'est-à-dire que en plus j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Nord.
Mais oui.
Et je réalise que les gens, quand je leur parle en anglais, me regardent avec un drôle d'air. Et j'ai compris à force qu'en fait, ils comprenaient rien à ce que je racontais.
Qu'il y a un malentendu permanent.
Oui, c'est ça.
C'est très ennuyeux.
Mais finalement, je sais pas. On arrive finalement quand même à se comprendre, avec derrière la caméra, avec les crayons, le dessin. Après, je comprends bien l'anglais, mais
Mais plus sérieusement, vous considérez d'abord comme une photographe, comme un peintre, comme une illustratrice? Ou comme un mélange de tout ça à la fois.
Non, je crois.
Moi, je vois une chronologie dans
toutes ces histoires. Ouais, après, je pense que je suis d'abord quand même une dessinatrice peintre. Je pense que c'est vraiment ça que je suis. Et il y a eu un moment où j'en ai eu un peu marre parce que j'avais que des commandes de dessins, d'illustrations. Ouais. J'avais envie de faire autre chose et je me suis dit tiens, je vais faire de la photo. Et il se trouve que j'ai commencé à faire des photos qui étaient plus des autoportraits.
Bing.
Non, mais parce qu'en fait, je voulais.
Mais
le truc c'est que je voulais pas. Trop demander de l'aide aux autres parce que j'avais peur de ce que j'allais faire. Je me sentais pas légitime de faire la photo parce que j'en avais jamais fait. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre moi-même en scène, je vais voir ce que ça donne. Et puis finalement, avec ces photos qui étaient pas vraiment de la photo de mode, mais comme il y avait un personnage féminin, des mises en scène, des costumes que je fabriquais, finalement j'ai pu, avec ces photos, présenter le prix Picto de la mode que, vraiment, alors là, de façon complètement incroyable, j'ai eu...
Mais vraiment, mais alors que c'est tellement incroyable.
Non, mais c'est, j'avais fait
mais
ça,
vraiment,
ça faisait
au
un
nom
an.
De quoi, évidemment. Enfin, pourquoi auriez-vous du succès dans ce que vous faites? On se le demande vraiment, Hélène. Alors, en musardant sur votre site, j'ai trouvé une série de photos, enfin, d'autoportraits de vous, intitulés Blonde, et vous vous mettez en scène sous les traits de Karl Lagerfeld, d'Andy Warhol, ou encore de... Kurt Cobain, donc, ça va faire plaisir à Charline. Hein, ça. Vous avez donc féminisé ces icônes pop masculines. L'idée, c'était de dresser un portrait de votre univers artistique.
L'idée, c'était de trouver des célébrités masculines, mais au lieu de mettre en avant leur talent, c'était de mettre en avant leur blondeur. En fait, l'idée, c'était plus de les présenter avec un lien commun autour de leur chevelure, plutôt que de leur talent. Enfin, c'était pour faire une blague un peu comme à l'inverse, quand on va parler des femmes, on est plus d'abord à penser à leur apparence, à leur à leur chevelure, on dit qu'elles sont blondes avant leur talent en fait. Donc c'était un peu faire un pied de nez avec ça. Et du coup après c'était aussi un amusement énorme de moi me grimer, de fabriquer ces costumes qui sont tous des costumes en papier, donc ils sont très désagréables à porter. Donc il y a un côté un peu forcé, voilà, c'est un peu un jeu aussi de métamorphose, hein, déjà, en fait.
De métamorphose, absolument. Oh, mais attendez, on va y venir aux métamorphoses. Parce qu'il y a une autre série de photos qui m'a marqué, Hélène Usdin, c'est celle qui s'intitule Bijoux de famille. On y entendra ce qu'on veut, hein, dans cette expression, dans laquelle vous avez fait poser, littéralement, les membres de votre famille dans le musée des arts décoratifs. C'est un peu inquiétant de voir s'amuser comme, sa famille un peu comme un musée. Comment est-ce que vous les avez convaincus de participer au jeu?
Eh ben alors, je les ai convaincus assez facilement. Je les ai un peu forcés. Après, ils n'étaient pas tous forcément très heureux du résultat parce qu'ils posent de façon assez sérieuse, on va dire, et quand même grimés, habillés, etc. Mais c'était vraiment génial cette expérience parce qu'en fait, j'ai travaillé là avec Nicolas Hoffman et Frédéric Baudet qui s'occupaient des musées des arts décoratifs. Et en fait, c'était vraiment venir. Il m'avait proposé une carte blanche dans l'exposition, qui était une exposition de bijoux contemporains. Donc moi, c'est pour ça que j'ai appelé la série Bijoux de famille, parce que j'avais envie de faire poser ma famille avec les bijoux qui étaient exposés. Donc chaque membre de ma famille, mes sœurs, ma mère, mon père, mon grand-père, pose avec un bijou qui était exposé. Et en fait, l'autre pendant de l'exposition, c'était, j'avais demandé au curateur si c'était possible de décrocher des tableaux du musée pour y accrocher ma famille, quoi. Voilà. Donc c'était assez...
N'est-ce pas qu'elle est étrange, cette Hélène Usdin, que nous recevons aujourd'hui dans Pop 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 pour parler de René, sa première BD absolument incroyable, qui sort chez Sarbacane. Vous évoquiez ce mot, hein, métamorphose. Bah, de métamorphose, on va parler longuement avec Charline, qui va nous rejoindre dans un instant, pour feuilleter avec nous ce superbe album, et parler aussi de l'exposition qui lui est consacrée. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ensemble ce morceau de Del Grease, c'est Ban Mwen en chanson. Écoutions Del Grease avec le morceau Ban Mwen en chanson, mais voici que, comme dans un rêve, oui, est apparue Charline Roux. Et sans doute pour faire honneur à notre invitée, elle s'est déguisée en lapin picard, mais pas surgelée pour autant, bien que les températures soient basses aujourd'hui. Bonjour Charline.
Bonjour, il n'y a pas de lapin chez moi, c'est des lièvres.
Ah, des lièvres, mais on peut les surgeler aussi.
Bah, faites ce que vous voulez avec les animaux.
Allez-y, parlez-moi de René.
René est un petit garçon qui ne trouve pas sa place, ni chez lui, auprès de sa mère réfrigérante, ni dehors où l'environnement, les gens, l'école sont hostiles. René a quelques absences, il s'évanouit et voyage dans des mondes étranges, peuplés de créatures tantôt effrayantes, tantôt protectrices. Durant l'une de ses absences, il part à la recherche de Sucre Doux, son doudou lapin qui s'est enfui, et René va lui aussi vivre des métamorphoses, d'où le point médian du titre. Vous avez construit cette histoire, vous le disiez, à partir de vos rêves, que vous notez depuis toujours. C'est en partie votre monde nocturne que vous avez décidé de raconter comme une expérience chamanique ?
Oui, après, je pense que c'était le point de départ. J'ai noté tous les personnages en fait, qu'on peut voir dans le livre. C'est vraiment des personnages qui me sont apparus dans mes rêves. Donc ça a été vraiment le démarrage de cette narration que j'ai abandonnée à un moment en ne sachant pas trop quoi en faire, en fait. Et puis, c'est un peu l'actualité au Canada, alors que j'y séjournais, qui m'a un peu rattrapé par la manche en me disant « Ah bah tiens, là... ça pourrait faire un peu un ciment entre tous ces personnages.
Mmh. Oui, parce que le rêve comme point de départ, et vous y avez ajouté un pan d'histoire qui n'a rien d'onérique, la rafle dont ont été victimes les Native Americans dans les années 60. 20 000 enfants ont été enlevés à leurs parents et donnés à adopter à des familles blanches. Comment est-ce que vous avez réussi à mêler un univers de faits et un univers de rêves ?
À mon avis, c'est grâce au conte, en fait, grâce à la fable, à l'imaginaire, qui permet... d'utiliser la symbolique en fait et je pense que ça a été ça la clé en fait que j'ai utilisée pour raconter une histoire terrifiante à hauteur d'enfant. Je pense que aussi c'est pour ça que le conte était intéressant à utiliser et tout en partant dans des mondes complètement psychédéliques, fantastiques.
Voilà. Arrêtons-nous un instant quand même sur cette histoire invraisemblable, hein, ces enfants enlevés à leurs parents par milliers dans les années 60. On a quand même du mal à imaginer que au Canada, dans ce pays qui a l'air si paisible vu d'ici, une telle pratique ait pu être institutionnalisée, puisque ça a été le cas. Qu'est-ce qui pouvait bien la justifier ?
Je pense que ces histoires, elles commencent à arriver en Europe. Depuis 2021, on commence un peu à en parler. Au Canada, au Québec, ils étaient assez. Enfin, ils savaient qu'il y avait des orphelinats et puis des pensionnats en fait aussi, mais ils avaient aucune conscience de l'horreur et de la violence avec laquelle les enfants étaient traités. Tout ça sous couvert de l'Église catholique, parce que c'était quand même eux qui géraient et les adoptions et les pensionnats. Clairement, ils ont cherché à acculturer toutes ces tribus en fait. Enfin, l'idée c'était de prendre les enfants pour leur inculquer une façon de vivre, un langage, des gestes qui n'étaient pas les leurs, et dans le but très certainement de tuer des cultures et
d'éradiquer une culture.
Puis peut-être même de récupérer les terres en fait.
Ouais, d'accord.
Le gouvernement du Manitoba était le tout premier de toutes les provinces canadiennes à avoir présenté des excuses officielles aux victimes autochtones et c'était seulement en juin 2015. Est-ce que c'est aussi cet insoutenable délai entre les faits et les excuses qui vous a donné envie de vous y atteler ?
Alors moi j'ai appris ça donc quand j'ai séjourné au Canada, c'était en 2017 et c'était justement le moment où le Manitoba, le gouverneur du Manitoba a commencé à effectivement dire qu'il y aurait de l'argent distribué, des compensations, des excuses, etc. Et donc c'est là où moi je me suis vraiment penchée sur le sujet en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est complètement fou. Comment on peut... Parce qu'en fait les histoires sont vraiment terrifiantes, vraiment cruelles. On enlève vraiment les enfants, on fait signer des décharges aux parents qui savent pas lire la langue, donc qui savent absolument pas ce qu'on leur demande. Et on profite d'un séjour à l'hôpital de petits pour les prendre, les replacer dans d'autres familles. Et effectivement, je pense que ce qui m'a aussi profondément choquée, c'est que ça a perduré jusque dans les années 90. Enfin, ça semble tellement récent. Enfin, on peut se dire encore, les années 60, ça a un côté un peu vieux, je sais pas.
Mais dis pas ça en me regardant. J'y étais. J'étais pas au Canada, mais j'y étais.
Mais les années 90, je sais pas, c'est vraiment super proche de nous. C'est assez terrifiant.
Alors, de ceux qu'on appelle les Premières Nations au Canada, vous avez réinterprété des mythes et des légendes qui sont au cœur de René, au Bois dormant, mais aussi la figure du Deux Esprits, qui est un trait commun à René et à sa petite fille Judith, dans le livre. Qu'est-ce que c'est qu'un Deux Esprits et pourquoi vous emparer de ce mythe-là ?
Les Deux Esprits, c'est effectivement une figure assez particulière dans les tribus amérindiennes ou dans certains peuples des Premières Nations. Ils ont un statut assez particulier parce qu'ils ont revendiqué leur droit d'être à la fois femme et homme, et ça leur confère une place honorifique dans la tribu et dans la société en fait. Et ce qui m'intéressait dans cette idée, c'est toujours l'histoire de métamorphose en fait. C'est-à-dire que là, je me suis attachée à la métamorphose du genre, à la porosité entre les états qu'on peut ressentir aussi dans notre être au cours de notre vie, par exemple, ou autour de nous. Voilà, en fait. Et donc, j'ai attaché cet état à René et à sa fille Judith, comme aussi un passage de relais de génération en génération. Ouais. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire transparaître aussi dans le personnage de Judith, c'est qu'elle est plus attachée à une culture queer, c'est-à-dire à quelque chose plus aujourd'hui, quelque chose qui est plus communautaire en fait, enfin qui sont une façon d'être plus engagée en fait que ne pouvait l'être René, qui devait se sentir dans son fort intérieur différent et appartenant à deux genres, mais qui pouvait pas le revendiquer exactement de la même manière.
Parmi les créatures croisées par René lors de ses escapades oniriques, il y a les Aoren, des créatures bienveillantes qui ont perdu la mémoire du passé. Le tout premier d'entre eux retombe d'ailleurs chaque jour amoureux de la même femme qu'il croit rencontrer pour la première fois.
C'est bien ça.
Qu'est-ce qu'ils symbolisent, ces personnages qui, a priori, sont très très innocents, pour le coup ?
Eh ben, je pense que c'est ça. Ils symbolisent pour moi l'innocence, l'insouciance. J'avais envie de mettre en scène des personnages complètement dénués de cruauté ou de cupidité ou d'arrière-pensée en fait, dans l'idée justement de les mettre un peu en opposition avec ces images terribles qu'on peut voir dans terrifiantes qu'on peut voir dans René, qui sont des personnages prédateurs. Ouais. Pour moi, c'était important de noircir ces personnages en mettant en opposition des personnages qui, à l'inverse, étaient des personnages qu'on voudrait avoir comme amis, comme amour. Et puis, il y a aussi cette idée de finalement la naïveté de tous ces peuples, les Premières Nations qui ont accueilli, d'une certaine façon, les conquistadors, enfin les colonisateurs, les oppresseurs. Et puis, ils n'ont pas... Enfin voilà, ils ont accueilli en fait, ils n'ont pas réellement eu de réaction plus malveillante que ça. En fait.
Hélène Usdin, les Aoren, donc, n'ont aucune mémoire, ce qui les rend bienveillants, hein, comme vous le dites très justement. Paradoxalement, c'est un livre sur la mémoire, sur les ravages de la mémoire enfouie et étouffée. Alors, faut-il, oui ou non, se souvenir du passé, docteur?
Alors là, je ne saurais pas répondre. Est-ce qu'il faut se souvenir du passé ? Oui, il faut se souvenir du passé. Il faut se souvenir de notre passé commun et de notre mémoire collective. Ne pas oublier aussi les richesses passées, les richesses que certaines cultures plus ancestrales peuvent nous apprendre. Moi, je pense que c'est très important de s'en souvenir. Ensuite, je pense qu'il faut oublier ses rancœurs, oublier les petites mesquineries qu'on peut avoir dans la vie quotidienne et qu'on a forcément tous. Voilà.
Il faut se souvenir, et avant de se souvenir, il faut lire René au bois dormant d'Hélène Usdin. C'est édité chez Sarbacane. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a une exposition jusqu'au 12 février à la Galerie Barbier à Paris de certaines planches de l'ouvrage. Bien, il est 16h, presque 32, c'est donc l'heure des Pop News dans Pop Pop Pop.
The Queen of Hip Hop Soul is back. J'ai nommé Mary J. Blige, la femme aux 40 millions de disques vendus aux 9 Grammy Awards. On l'a vu dans la bande-annonce de la mi-temps du Super Bowl, aux côtés de Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Eminem, avec qui elle assurera le show. Et Mary J. Blige vient de dévoiler un tout nouveau titre, Rent Money. I spend everything on you, spend my energy on you, but that loyalty on you, I ain't got nothing left, coming over my head. Breathing, you know you're the reason, just trying to break even. You must be used to me spending. Et Rent Money figurera sur le nouvel album de Mary J. Blige, Good Morning Gorgeous, qui sortira le 11 février. Et pour l'avoir performé à la mi-temps du Super Bowl, ce sera deux jours après, et c'est à ne pas rater.
Nightmare Alley, l'allée des cauchemars. Écoutez bien ça, Hélène. Le nouveau film de Guillermo del Toro est dans les salles depuis mercredi dernier. Et déjà, le réalisateur mexicain dévoile les premières images de son nouveau projet tout en figurines animées.
Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait, non. pas vraiment. Voyez-vous, moi, Sébastien chez Cricket, j'étais là. Je dirais même plus, je vivais, vous m'avez bien entendu, je vivais dans le cœur du garçon de bois.
Guillermo del Toro signe un nouveau Pinocchio et ce sera à voir en décembre sur Netflix.
Et la reprise du jour est signée Wet Leg, un binôme de l'île de Wight dont on vous a déjà longuement parlé. Rian Tisdale et Hester Chambers ont livré pour une radio américaine leur version du Material Girl de Madonna. Et Wet Leg, le tout premier album, arrivera le 8 avril.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Un taureau ?
Mais oui, bravo !
Mais
bravo ! Mais oui !
Pourquoi ?
Il s'appelle Guillermo.
Guillermo le taureau, mais oui, bien sûr, évidemment. Je ne l'avais pas.
Bravo, Charlie. Replongeons dans l'univers de notre invitée Hélène Eusdin, venue nous parler aujourd'hui de René au bois dormant, sa première bande dessinée parue chez Sarbacane.
Alors, on peut parler de prouesse graphique, esthétique, faites votre choix concernant René au bois dormant. 272 pages réalisées à l'aquarelle, à la gouache, parfois rehaussées au crayon. Les textes sont écrits à la main, de manière volontairement enfantine, pour coller à la voix du narrateur. Le tout, rappelons-le, pour un premier roman graphique. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous avez eu le premier exemplaire entre les mains?
Un soulagement
4 ans de travail.
Ouais, je me suis dit aussi qu'il était hyper lourd, en fait. Il fait quand même 1,8 kg.
Et il est hyper beau, surtout.
Ouais, c'était comme un nouveau bébé. En fait, il est arrivé le 17 août à la maison d'édition, qui est le jour de l'anniversaire de mon fils. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir mon second bébé.
Hélène Eusdin, vous avez passé quand même 4 ans, comme je le disais à l'instant, à fabriquer ce roman graphique. Et vous dites que venant de l'illustration et de la photo, c'est la difficulté de raconter une histoire longue qui vous a empêché de dormir la nuit. Et donc de rêver d'une certaine manière. Vous êtes partie d'un texte écrit, comment vous y êtes-vous pris ?
Comment je m'y suis pris ? J'avais le début, la fin, j'avais petit à petit le cheminement. Et puis j'avais les rêves que je voulais ponctuellement mettre dans l'histoire, parce qu'en fait ils me permettaient aussi de passer des seuils dans la compréhension de la mémoire de René, en fait. Et puis, en même temps, ça s'est enrichi parce que entre 2017 et fin 2019, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Nord et puis au Mexique. Et donc, ça s'est aussi enrichi des gens que j'ai rencontrés, de choses que je pouvais ressentir. Donc, c'est la somme de tout ça. Donc, c'est autant la sérendipité que des choses qui, à mon avis, viennent de plus loin. Enfin, c'est super organique, en fait. Ouais. Donc, c'est assez difficile. En tout cas, la première bouture est assez compliquée à expliquer, peut-être. Mais ensuite, une fois que j'avais signé avec Sarbacane, donc en mars 2020, là, j'ai repris ce premier storyboard que j'ai réellement conçu comme un récit, quoi. J'avais envie de vraiment me dire comment le lecteur va prendre l'histoire, à quel moment va falloir que je lui dévoile réellement ce que je suis en train de raconter, etc. Ouais. Donc, c'est dans un second temps que j'ai repris le récit pour vraiment raconter vraiment l'histoire, en fait.
Les formes vous sont venues avec la couleur, ou plutôt avec les couleurs. Elles sont une part très importante de la narration, un marqueur temporel. Celui du rêve est précisément en couleur et celui du présent en noir et blanc. Est-ce que c'est pour mieux souligner aussi que dans ce récit, c'est la réalité qui est exsangue ?
Ouais, et puis en fait, j'avais tellement de mondes fantasmagoriques dans les rêves que ça aurait été dommage de pas utiliser la couleur plutôt pour les raconter, en fait. Et puis effectivement, la modernité des villes, la froideur, l'humidité,
le mouchoir qu'on déplie,
exactement.
C'est comme ça que la ville est décrite.
C'est ça. Je trouvais que ça passait très bien plutôt en noir et blanc, en fait.
Alors René se métamorphose au fil de l'aventure. De petit garçon à cheveux courts, il devient fille à cheveux longs, puis arbre. La métamorphose en fiction, en littérature, de Dracula à Kafka, de Frankenstein à la Daphné d'Ovide, toutes presque racontent quelque chose d'une société malade. Qu'est-ce que la transformation de René raconte dans votre roman graphique ?
La transformation de René, pour moi, elle était vraiment un moyen qui de passage de passage de compréhension dans sa quête à lui, en fait. Donc il passe de l'état d'un petit garçon, finalement il va se transformer en animal, donc il appréhende le monde sauvage, il va se transformer en végétal, donc il va appréhender le monde végétal, mais dans au sens large du terme, c'est-à-dire que en végétal, les fleurs deviennent des entités sexuelles pratiquement en fait. Enfin, il y a vraiment une recherche aussi autour de la symbolique. C'est aussi ça qui m'intéressait et qui m'intéressait aussi du coup dans la métamorphose. On peut se transformer en toute chose. Voilà, en fait.
Ouais, c'est ouvert. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est super ouvert et ça permet de raconter beaucoup de choses aussi, quoi.
Hélène Usdin, au sujet des cheveux longs, vous dites que les couper est un geste violent qu'on imposait aux enfants amérindiens volés à leur famille. C'est effectivement une violence symbolique qui me rappelle par exemple la première scène de Full Metal Jacket de Kubrick dans laquelle on tond les cheveux des appelés qui vont partir à la guerre. Couper les cheveux, c'est voler la liberté, comme le dit si justement Franck Provost.
Ouais, c'est bien ça. Mais oui, je pense que c'est un geste très... très fort. Joy Harjo, elle le raconte dans sa biographie aussi. Richard Vagamesi aussi, qui sont deux écrivains autochtones. En fait, la violence de leur couper les cheveux, parce qu'en fait, ils ont un pouvoir dans les cheveux, en fait. Et ça, en fait, cette idée de cheveux qui devenait liane dans mon histoire, je l'avais avant d'appréhender toute cette part. C'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que finalement, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux légendes et à la culture amérindienne, j'ai vu des ponts entre mon inconscient, qui est finalement en fait l'inconscient collectif, et puis les fables ou les contes à travers le monde, en fait. Mmh. Et c'est ça aussi que je trouve assez beau, c'est de se dire que il y a des ramifications et des liens beaucoup plus grand, et c'est ce qui devrait faire que, en fait, on devrait s'écouter peut-être un peu plus. En fait.
Une des créatures du livre, une sorte de mère oiseau géante, transforme les humains en arbres pour repeupler la forêt, et on sent que c'est aussi un peu une vengeance. Vous auriez envie, vous, de transformer les humains qui parlent trop en arbres et qui la ferment?
Mais je trouvais ça pas mal comme idée, effectivement, ça m'est venu comme ça. Effectivement, dans un rêve de cette mère oiseau hyper terrifiante, en fait. Donc, mais c'est vrai que si on pense à un oiseau, en fait, ça peut avoir un côté très terrifiant. C'est quand même des anciens dinosaures, quoi.
Et puis, surtout les poulets.
Surtout les poulets. Ah, oui. Donc, de les représenter de façon disproportionnée. Mmh. Et puis, finalement, comme des créatures qui reprennent leur destin en main et qui décident un peu de ce qu'on va faire de ces créatures humaines qui vont un peu trop loin, en fait, quand même. Voilà, c'était un peu l'idée.
René au Bois Dormant est à la fois un roman graphique sur la mémoire, sur le rêve, mais aussi, à sa drôle de manière, c'est un conte écologique. Est-ce que c'était finalement assez naturel d'imbriquer ces trois idées?
Eh ben, en fait, c'était ma première idée, c'était vraiment un conte écologique. C'est un peu quand j'ai commencé à construire ces premiers personnages. Donc ça, c'était vraiment à l'orée des années 2000, donc ça remonte à assez loin. Et c'était en plein dans les sorties des premiers Miyazaki, Princesse Mononoké, Voyage de Chihiro, où quand même il y avait un vrai, c'est vraiment il met en scène des esprits, les esprits de la forêt, mais aussi les esprits dans la nourriture, dans tout en fait, tout a une forme vivante finalement. Ouais, ouais. Et ça m'a ému beaucoup. Et c'est de là que m'avait donné envie l'idée de faire un conte plus écologique. Mais finalement, ça se recoupe clairement avec toutes les légendes des peuples des Premières Nations. En fait, ils vivent leur environnement de façon... en harmonie, en fait. Ils cherchent de façon très respectueuse à écouter les esprits qui les entourent, quoi.
Et cette première incursion dans la BD se révélant une réussite, hein. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous avez des projets en ce sens?
Oui, j'ai un projet qui va pas être sorti tout de suite.
4 ans.
faut voir avec l'éditeur si je pourrais pousser aussi loin, parce que du coup c'est un peu un cheminement différent, puisque avec René, j'avais pas de date limite, j'avançais sans vraiment savoir, même si j'allais l'éditer, en fait. Là, c'est un peu différent parce que...
Vous savez que vous allez l'éditer.
Je sais qu'il va falloir un moment qu'on fait en fils. Donc, là, j'ai écrit avec mon fils, donc on écrit à deux, donc il y a quand même toujours, je pense, cette histoire d'héritage qui me tient à cœur, en fait. Et on écrit, donc ça se passe à Détroit, enfin, en tout cas, c'est le démarrage de l'histoire, c'est une ville que j'ai beaucoup fréquentée, enfin, que je souhaite encore fréquenter, où j'ai rencontré pas mal de gens, et c'est très photographique, très cinématographique, mais c'est très riche aussi de plein de façons et puis aussi dans l'histoire. Voilà, je sais pas trop si je peux en
dévoiler. Ah bah non, ça y est, vous en avez dit assez, ouais, okay. Assez pour nous titiller et nous faire patienter, j'espère, moins de 4 ans. René.E au Bois Dormant, c'est à retrouver aux éditions Sarbacane et c'est donc signé de notre invitée aujourd'hui, Hélène Usdin. Hélène, dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de...
Who came all this way on the railroad?
Here. I'm left behind all those peoples.
Credit is the only thing you can get free from the company. Got a house, fridge. Can't give it back because it's already broke down.
De l'artiste Bonnie, du réalisateur Barry Jenkins, de Paul Schrader et de pop culture, tout ça, ce sera juste après le dernier morceau de Fontaines D.C., Jackie Down the Line. Jackie Down the Line, c'est un morceau signé Fontaines D.C. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Eh oui, je remets ma mèche parce que vous avez choisi ce générique comme référence pop, ma chère Hélène, le générique d'Albator. Expliquez-moi ce choix, Hélène Usdin. Avant que ma mèche ne retombe, allez-y, dépêchez-vous.
Eh ben, Albator, je pense que c'était vraiment une référence quand j'étais enfant. Enfin, comment expliquer
Je sais pas, c'est vous. Pas moi.
Quand je regardais la télé, enfin, donc dans les années 80, on avait le choix entre Candy ou Goldorak ou Albator. Bon, moi, j'avais jeté mon dévolu sur Albator parce que je pense que
il était si beau,
il avec était sa cicatrice, beau, c'est ça. Bah, mais oui. Surtout, en fait, on pouvait. On pouvait soit s'identifier à lui, même quand on était une fille. En fait, il a ce côté tellement androgyne, finalement, qui permettait ça, ou tomber amoureuse de lui. Et en fait, c'était un peu. Bien. Et puis aussi, voilà, je pense que c'est. Les dessins animés, si on est enfant, on se plonge là-dedans. Il y a plein de choses qui restent, en fait.
Bon, assez d'albateurs. Restons dans votre univers pop, Hélène, parce que c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Le livre que vous lisez en ce moment, c'est L'aube américaine de la musicienne et poétesse Joy Harjo. D'ascendance amérindienne, elle est également la poète lauréate américaine. Voilà ce que l'on en sait. Charline, dites-nous deux mots du livre.
28 mai 1830, le président Jackson signe la loi de déportation des peuples amérindiens. 5 tribus de l'Est, dont les Cherokees, prennent la route de l'exil qui sera appelée la piste des larmes. Avant le départ, certains sont forcés d'assister à l'intrusion dans leur maison de colons armés de bibles et de fusil.
Ah, eh bien. Auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, Hélène ?
Oui.
Alors, elle est chausse, ses lunettes.
Je mets mes lunettes.
Elle remet sa chemise de nuit.
Je prends... Alors voilà. Écoutons. Donc, il n'y a pas de titre. Nous sommes encore en deuil. Les enfants furent volés à ces terres adorées par le gouvernement. Leurs cheveux furent coupés, leurs jouets et leurs habits faits main à eux, arrachés. Ils furent baignés de pesticides et, propres désormais, se virent donner à réciter... Oh, je fais des liaisons qui n'existent pas, c'est terrible.
Mais si,
se virent donner à réciter des prières en langue étrangère, tandis qu'on les mettait en rang pour les faire dormir seuls dans leur cage militaire.
Bien, alors nous voici revenus sur ces histoires d'Amérindiens, de kidnapping d'enfants. Pourquoi est-ce que vous vous sentez aussi proche de cette histoire ? Parce que là, vous continuez à lire donc des textes de cette poétesse américaine à ce sujet.
J'en sais rien. Je pense que c'est, je sais pas. Il y a des injustices qui passent pas. Mmh. Ouais. Je pense pas qu'il faille rattacher ça à mon histoire personnelle. Mmh. Je pense que c'est
je
plus.
L'ai pas fait.
Non. Je parle de moi, mais je pense que c'est plus. Je sais pas. Je trouve qu'il y a une cruauté de s'en prendre à ses enfants et par les enfants du coup de s'en prendre aux parents qui n'ont aucun moyen de se défendre en fait.
Et donc ces textes-là vous touchent particulièrement ?
Oui, et puis en fait Joy Harjo, c'est assez particulier parce que donc c'est une femme Cherokee qui a vécu aux États-Unis. Dans les années 70, c'était quand même une période d'émancipation, donc elle a aussi vécu ça, mais elle avait quand même cette étiquette d'amérindienne, en fait, qui lui collait aussi à la peau. Donc, elle raconte cette histoire dans un autre livre qui s'appelle Crazy Brave, où elle raconte effectivement cette ambivalence, en fait, entre l'époque qui voudrait que la femme se libère et elle, son histoire de femme Cherokee. Et après, c'est un peu plus universel aussi, tous ces peuples qu'on opprime et dont on se permet d'attaquer les enfants. Voilà.
Passons maintenant, si vous le voulez bien, je saute du coq à l'âne, à votre série du moment qui a pour titre, et vous allez me laisser dire le titre, The Underground Railroad, du réalisateur oscarisé pour Moonlight, Barry Jenkins. Charline, j'imagine que c'est un métro un peu différent de celui qui relie la défense à la nation.
Je vous le confirme, Cora Randall est une jeune esclave dans le sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Elle s'échappe d'une plantation de Géorgie et découvre l'existence du chemin de fer clandestin, celui qui donne son titre en VF à la série.
You came all this way on the railroad?
Yeah. I left behind all those peoples.
Nothing was given. All was earned. Hold on to what belongs to you.
Mm-hmm. What's her name?
Bon, on est très loin de la petite maison dans la prairie, n'est-ce pas? Donnez-nous à tous envie d'aller voir ce Underground Railroad.
Alors, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette série, c'est qu'on parle de faits réels, très douloureux, donc de la fuite des esclaves entre les deux guerres, entre la guerre d'indépendance et la guerre de sécession, qui effectivement remontait vers le nord pour fuir l'esclavagisme du sud. Et donc, en fait, là, le réalisateur et la série prennent un biais un peu de mythe, puisqu'en fait, ils vont développer cette idée de chemin de fer souterrain qui était une légende en fait. C'est-à-dire qu'il existait des façons de fuir souterraines ou autres, mais ils s'emparent en fait de cette légende pour la rendre réelle, mm-hmm. et du coup ça donne un côté un peu magique dans un univers atroce. Et en plus, il y a ce personnage féminin, Cora, qui est, moi, j'ai trouvé absolument magnifique, forte. Et puis voilà, c'est une façon de raconter des faits réels, mais avec avec un biais plus magique. Mmh. Et puis en fait, j'adore aussi ce réalisateur. J'ai adoré Moonlight. J'adore ces images. Enfin, il y a des envolées comme ça sur juste des images entières. Ça commence. Enfin, c'est super beau, quoi.
Underground Railroad. C'est vrai que c'est dur à dire. C'est pour ça que vous voulez que je m'y colle. Bon, le cinéma. On va parler du film que vous nous conseillez. C'est Blue Collar de Paul Schrader. C'est un très beau film dont je garde un vif souvenir alors que je l'ai vu au moment de sa sortie. C'est juste pour vous rassurer sur l'état de ma mémoire, Charline.
J'étais pas inquiète. Trois ouvriers des usines automobiles Checker à Détroit tentent de s'opposer à l'immobilisme et à la corruption du syndicat.
Every time I get coked up like this, I think I'm never gonna go back to the plant. Don't know why the fuck I do.
Because the credit men need your paycheck.
Credit's the only thing you can get free from the company. Got a house, fridge, dishwasher, washer dryer, TV, stereo, motorcycle, car. Buy this shit, buy that shit. All you got's a bunch of shit. You don't even own it. Can't give it back because it's already broke down.
Ça, c'était en 78, le Blue Collar de Paul Schrader. C'est un film de chevet pour vous, comme il en est des tables?
Non, je l'ai découvert là récemment. En fait, je me suis plongée un peu dans toute la cinématographie à Détroit. Donc, ouais. J'ai vu récemment Undercover. No Sudden Move de Soderbergh qui vient de sortir. Mais en fait, ce film-là, Blue Collar, m'a été conseillé par mon père, qui l'a vu il y a longtemps.
En 78.
Et qui effectivement m'a beaucoup ému, m'a plu aussi, parce qu'en fait, ça se passe donc dans les années, un peu fin 70. Mm-hmm. Donc il y a vraiment cette ambiance qui est vraie, en fait. C'est pas une reconstitution. Il y a une vraie ambiance de lumière, de musique, de tout, en fait. Il y a Harvey Keitel qui est quand même absolument incroyable. Et en fait, à l'inverse de Underground Railroad, il n'y a pas du tout de magie. Hein. C'est très réaliste, très brutal. Il y a cette première scène qui est folle, où on est dans l'usine, où on se demande en fait si il a tourné ça comme ça, ou si c'est très orchestré. Enfin, il y a un mélange.
C'est absolument incroyable.
Et puis, il y a cette scène à la fin où je ne vais pas la raconter, mais qui fait, à mon avis, enfin, j'en sais rien, mais je l'imagine, référence à Pierre Oulfou, où il se trouve complètement bleu. Ça m'a vraiment plu.
Très bien, le Blue Collar de Paul Schrader. Enfin, votre morceau du moment, c'est Time de Bonnie. Alors, je connais ni le titre ni l'artiste. Dites-moi en deux phrases qui est Bonnie.
C'est mon fils.
Ah, ben voilà.
Et en fait, oui, voilà, il est musicien, compositeur. Il est parti à Montréal, là. Ils sont en train de monter.
Mais je suis sûr qu'il nous écoute à distance ou à travers les podcasts. Et on écoute Bonnie et le morceau, c'est Time.
Yeah.
Fontana qui évidemment coupe un solo. Dès qu'il y a un solo, Ghislain Fontana le coupe. Ce que nous écoutions, c'est Time dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé Bonnie. Et c'est la pop recommandation de Hélène Usdin, notre invitée aujourd'hui. Merci Hélène.
Merci beaucoup.
De nous avoir rendu visite. Merci d'être venue passer cette heure en notre compagnie. Je rappelle que René au Bois Dormant s'est édité chez Sarbacane et que c'est chaudement, comment dire, encore plus que ça, recommandé par Pop Pop Pop. Tout comme l'exposition du même nom qui est à découvrir à la Galerie Barbier jusqu'au 13 février. Merci Charline.
Merci à vous.
Et à demain, et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, l'auteur Yves Bigot vient nous rendre visite, mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.